À Faux-la-Montagne, aux alentours des 1er novembre, le Constance Social Club organise le Carnaval Sauvage, une célébration pour accueillir l'hiver, qui se teinte depuis 2 ans d'une célébration des morts. Depuis septembre 2019 et jusqu'au prochain carnaval, donc fin octobre, tout début novembre 2020, le centre social de Faux-la-Montagne accueille en résidence l'artiste Anna Gianferrari, qui m'accueille aujourd'hui dans son atelier. Ça fait déjà pas mal d'éditions que ton travail est associé au Carnaval Sauvage par une première entrée assez évidente qui est celle du costume. Comment ça s'est développé et quelle influence ça a eu sur ton travail ?
J'ai évidemment beaucoup de curiosité et d'intérêt pour les fêtes dans le monde entier. Et du coup, j'ai commencé assez naïvement à juste fabriquer des masques. J'ai grandi ici, mais du coup, je suis partie à la ville comme beaucoup. Du coup, j'ai pas connu les prémices du Carnaval Sauvage ici. Mais j'ai rencontré Émilie Lordemus, qui est un peu aux prémices de ce carnaval-là et qui m'a du coup proposé de venir exposer mes masques dans le village dans la phase de préparation du carnaval il y a quelques années. Et ça s'est jumelé à des ateliers proposés à l'école avec les enfants pour fabriquer leurs masques de costume. Depuis plusieurs années, il y avait quelques jours de préparation dans les lieux. Ça a un peu évolué depuis, mais du coup, il y avait des ateliers où les gens pouvaient venir fabriquer leurs costumes et moi, j'étais là pour participer à ça.
Tu parlais de ton intérêt pour les fêtes.
Moi, je pense que j'ai une passion particulière pour les fêtes. Je pense aussi par constat de moi être issue du On refait. J'ai pas l'impression d'être issue d'une culture ou d'une religion forte qui porte du coup une tradition et des fêtes culturelles qui ont pour vocation du coup de ressouder une communauté, quoi. Et pour le coup, j'ai juste participé en termes de tradition à plein de balles trad, quoi, dans mon enfance. Et c'était des moments d'intensité hyper forte où, du coup, la question de la danse et des musiques était vraiment présente en termes d'intensité entre les gens. Et du coup, je pense que ça a été un moment assez fort de mon développement personnel, en fait. Et après, j'ai fait quelques voyages en Burkina Faso, au Mexique, et récemment au Vietnam. Et c'est des cultures dans lesquelles les fêtes traditionnelles sont hyper, hyper rythmées, hyper dansées, hyper costumées. Et plastiquement, moi, ça me fascine complètement en termes de couleurs, de transformation des individus et ce que ça peut amener, en fait, comme paillettes, quoi, de se costumer et de jouer des masques. Après, il y a toute la recherche ethnologique qui va avec au niveau des transmissions culturelles qui sont avec la symbolique des masques et des costumes qui m'intéresse beaucoup. Mais je pense que moi, pour le moment, j'ai un rapport plus naïf à ça. J'ai eu un espèce d'obstination à fabriquer des masques et des masques et des masques sans pour autant les faire porter. Et du coup, ça a commencé à s'incarner avec le Carnaval Sauvage de Faux-la-Montagne.
Je crois,
Alors, ces masques, ils mélangent divers matériaux. Tu pratiques le travail du métal, le travail du fil, du textile, de la laine. Là, récemment aussi, tu développes, évidemment pas seul, un travail autour de la nourriture. Je dis évidemment pas seul parce que tout fait pour être partagé. Quel est ton parcours de formation ?
Moi, du coup, j'ai une pratique complètement autodidacte du textile, mais qui est, du coup, au final, celle sur laquelle je peux être la plus spécialiste. Mais j'ai toujours eu une pratique spontanée comme ça de la couture, du fil, donc du tissage, du crochet, puis de la laine, qui est un matériau qui m'intéresse énormément aussi localement. Et ensuite, j'ai eu une formation pour travailler le métal, donc un diplôme des métiers d'art. Puis un parcours autour de la céramique aussi, plutôt par des rencontres. Et en fait, tous ces matériaux étaient toujours mixés avec du textile. En fait, il y a toujours, je mélange toujours les matériaux quand même. Voilà, mais j'ai un rapport très sculptural quand même à la création. Quoi. C'est vraiment très spontané dans le mélange des couleurs, des matériaux. Et c'est ça qui m'intéresse.
Sur ton site internet annagianferrari.fr, on peut voir tes premiers masques même, peut-être, enfin les premiers, je sais pas, mais des masques assez anciens. Il y a eu tout un moment de ton travail qui a développé un certain trouble identitaire, enfin des troubles dans le genre, on va dire. Mmh. Est-ce que c'est juste ?
Oui, oui. Et ben du coup, évidemment, c'est ma recherche autour du masque, elle a été ponctuée de plein de découvertes et de plein de réflexions. Hein. Et notamment sur la plus, je dirais, avec plus de distance que le masque, mais toute la question de ces fêtes-là m'a vachement intéressée sur le glissement, en tout cas. Et du coup, le costume pouvait être un glissement vers autre chose et un jeu d'identité, quoi. Je vous apprends rien, hein, mais mais du coup c'est un super outil, c'est un super outil pour ça. Et moi ça m'a intéressé de jouer en effet sur les glissements homme animal, homme femme, genre, enfin tout ça mélangé un peu quoi.
Isai mai nai lau mula nai lau tsi mai lue nau. Ya mu jau tu ngau ni su ngau mana upeda ngau
mana. Anna, nous sommes aujourd'hui donc dans l'atelier dont tu disposes pendant ta résidence dans la maison au volet bleu de Faux-la-Montagne qu'on appelle Casa Malte, où tu proposes de nombreux rendez-vous d'ici au prochain carnaval. Mais avant de parler de ces rendez-vous, j'aimerais qu'on revienne sur les débuts de la résidence. Donc, au mois de septembre, au Constance Social Club, où tu proposais des veillées. Comment est venue déjà l'idée de cette proposition ?
C'est venu d'une envie de ma part de saisir donc des questions du carnaval un peu toute l'année. Et pas juste une semaine avant. Et du coup, j'ai fait la proposition spontanée à l'assaut du Constance Social Club d'organiser chaque mois, à chaque pleine lune, un temps de rencontre où on aurait un peu le carnaval dans la tête, qui nous permettrait de le préparer, sans forcément le préparer matériellement, mais en tout cas qu'il soit présent une fois par mois. Et du coup, l'idée, c'était juste de se retrouver, de partager un moment de repas, un moment d'échange. Moi, c'était un moment de restitution de mon travail qui quand même parle de la question du costume et du travestissement. Je mettais une bibliothèque à disposition, qui est ma bibliothèque de travail autour des fêtes, du textile et des costumes. Moi, je lisais un texte que je travaillais avec un ami de façon cyclique et qui, du coup, vit des métamorphoses tous les mois. Donc, c'était juste pour parler de la question de métamorphose et de cycle. Il y avait aussi un temps de partage de savoir-faire autour du tissage et de différentes techniques textiles.
Et c'est à cette occasion que tu as commencé à développer avec Dorian Albert une pratique artistique et en même temps très très concrète autour de la nourriture et de l'idée du banquet.
Ouais, parce que du coup, dans cette question de se retrouver tous les mois, c'est un peu en plus à la pleine lune, donc c'était plutôt un repère chronologique pour nous, mais ça avait quand même une petite teinte de petite célébration tous les mois. Les attraits d'une célébration, nous, ça nous intéressait. C'est quoi le contexte, c'est quoi le décor, et qu'est-ce qu'on y fait, et du coup, évidemment, qu'est-ce qu'on y mange, parce que c'est aussi... ça fait quand même partie des grands partages des regroupements de la nourriture. Et du coup, nous, on avait envie de faire des propositions qui soient des expériences en soi, ce temps d'échange, qui ne soit pas juste un repas à partager avec des assiettes et des couverts. Et du coup, on s'est mis à jouer quoi, avec ça, Déjà, on mangeait au sol, on composait, j'avais brodé la nappe sur laquelle on mangeait, sur laquelle il y avait des mots écrits qui donnaient un peu de poésie et de petites pensées quoi, qu'accompagnaient le repas. On a commencé à jouer sur qu'est-ce qui se passe si les gens mangent tous avec les mains, tous ensemble, c'est quoi nos supports, c'est quoi les couleurs, les textures. Et surtout, on a commencé à travailler sur la fête des morts, en fait. Comme c'était un cycle qui allait aboutir au carnaval sauvage, on avait envie de faire un très gros banquet pour le carnaval. Et du coup, on a un peu entamé nos recherches de... ce serait quoi un banquet mortel, quoi. Et du coup, on a fabriqué une fois un grand corps en croûte de sel qu'on a fait cuire dans un four à pain, donc qui faisait 1,60 m. Et c'était une sculpture, quoi, en pâte, dans lequel il y avait des truites, des légumes et tout ça. Et on s'est tous retrouvés cannibales à manger cet être qui était là, sur la table, au sol. Donc voilà, c'était le début de ce qu'on continue de faire, en fait, qui est toujours un peu expérimental et qui est vraiment une recherche, mais ça prend forme au fur et à mesure des lunes.
J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur peut-être deux aspects. La pleine lune, peut-être, et qu'est-ce que toi, tu mets dans cet événement cyclique, et peut-être ensuite le cannibalisme, savoir si tu as un peu creusé la question.
Donc, par rapport à la lune, moi c'est juste que je trouve ça plus sexy, je dirais, de se retrouver à la pleine lune que tous les troisièmes dimanches du mois. Et qu'il se trouve que c'est un cycle naturel, que c'est un repère chronologique qu'on peut tous percevoir. Et du coup, un rendez-vous un peu évident qui permettait à aussi plein de gens de venir. Ça tombe pas toujours le même jour, c'est aléatoire sans l'être, enfin c'est aléatoire par rapport à notre perception du calendrier, mais voilà. Puis ça nous reconnectait à cette question des cycles et des rythmes.
C'est devenu une forme plastique assez récurrente dans ton travail, non?
Ouais. Moi je m'en suis saisie, je pense, parce que je trouve ça beau, tout simplement, et aussi parce que c'est quand même le symbole d'une intensité particulière, et moi c'est clair que ça reste mon dada, quoi, dans mon travail. En fait, je travaillais sur le costume, mais aussi sur la question de la jouissance. Enfin, pour moi, ça, c'est un peu un petit symbole de ces trucs-là, d'intensité, de moments qui sont marquants, les fêtes, les jouissances, les pleines lunes. Voilà, ça me plaît, ça.
Et pour revenir à ce banquet cannibale, comment est-ce que vous avez creusé un peu avec Dorian cette question du cannibalisme? Qu'est-ce qu'elle vous évoque ou...
Je ne sais pas si on se l'est beaucoup formulé en cannibalisme, même si c'est moi qui ai utilisé ce mot-là. Mais plutôt en fait notre rapport à la mort, il est assez tabou, parce que du coup ça devient une chair morte, quoi, aussi, notre corps. Et du coup on n'arrive même pas trop à accepter d'être mangé par les vers, enfin c'est très a vraiment un rapport tabou à ça et qu'on est un peu une des seules espèces sans trop de prédateurs. Et du coup, on est un peu la... On est des corps qui sont immangeables un peu. Et nous, on avait un peu envie de casser ça. Ça nous plaisait bien, ce truc de se reconfronter à ça aussi, parce que ça permet du coup la consommation de cette chair et que du coup ça aide à la disparition et à la retransformation de la matière et de l'individu. Et donc symboliquement, ça nous plaisait beaucoup. Et ça nous remettait un peu dans quelque chose d'hyper vivant et d'organique, quoi. Et ça a été en effet un des banquets les plus intéressants en termes d'expérience, où les gens étaient dans une euphorie vraiment particulière d'être là à détruire au marteau la jambe pour manger la truite, quoi. Et ça, c'était vraiment un moment d'euphorie, ce truc de la chair. Bon, comme il y avait aussi de la matière animale, du poisson, c'était très particulier, mais voilà, il y avait une betterave à la place du cœur, il y avait ça qui du coup nous faisait faire plein de parallèles avec nos corps vivants.
Depuis 2 ans, le carnaval sauvage laisse une grande place aux morts. En 2018, parce que le jour du carnaval tombait exactement le même jour que la fête des morts mexicaine. Puis en 2019, il y a eu une semaine de réflexion, Samhain, portée par une association qui s'appelle Par la Racine, et donc qui réfléchit à la réappropriation de la mort. Donc c'est une nouvelle direction. Qu'est-ce que tu fais de cette nouvelle réflexion-là ?
C'est absolument super. Moi, je pense que je m'en fais surprendre aussi, bien que le carnaval, je trouve, portait déjà ça, avec son caramontran. Enfin, ça symbolise aussi plein de sortes de morts. Enfin, il y a la mort des humains, il y a plein d'autres sortes de morts, et la question des transitions de cycle, du coup, forcément, la mort d'une saison... Enfin, la transition parle de mort et de vie, quoi, pour moi. Et...
Tu as dit Caramontran ?
C'est le personnage qui symbolise le carnaval et qui est brûlé dans le carnaval traditionnel. Et du coup, cette histoire de fête des morts, là, elle nous arrive un peu en pleine figure, pour moi, en tout cas. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que... moi, je m'intéresse énormément, du coup, à... toutes sortes de célébrations qui, du coup, rythment un peu nos vies, quoi. Et le constat est qu'on n'a plus vraiment de tronc commun culturel, en tout cas là, localement, en vivant ici, à Faux-la-Montagne. Et du coup, pas beaucoup de rites, en fait, pour accompagner ça, et de codes communs, quoi. Et quand même, la mort, on y est tous confrontés, hein. Et du coup, c'est hyper intéressant de... Enfin, du coup, ça continue d'être une nécessité, quoi, de célébrer ça. Même si, du coup, il y a plein de choses qu'on célèbre plus, mais qu'on sent bien l'envie avec le carnaval et tout ça, de se réapproprier tout ça. Et du coup, moi, là-dedans, j'ai essayé de faire mon petit chemin, de rencontrer les gens que ça touchait, et de voir comment me réapproprier ça. Et ça s'est pas mal joué là ces derniers temps. Et comme la question de la mort, on y est du coup tous confrontés, se posait évidemment la question très pratique de comment on la célèbre. Et moi, je me suis un peu plus penchée vraiment sur la question pratique de ça pour le moment et de comment mobiliser du coup des forces à ce moment-là, du coup vraiment dans le décès d'un proche par exemple, où on va avoir... besoin en fait de mobiliser des forces d'action et pour créer une cérémonie. Et du coup, avec Dorian Albert, avec qui je fais des banquets depuis quelques mois, on a vraiment constaté que nous, notre souhait, c'était de réaliser des banquets pour une célébration, en fait, pour que ce soit une offrande pour quelqu'un ou pour quelque chose.
T'es arrivé à dire quelque chose du fait que le rituel et la question de la mort commençaient à dépasser quelque chose de ta pratique plastique. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien entre ce carême entrant qu'on brûle et les offrandes, en tout cas, les banquets de rituels qu'on va ingérer et qui vont aussi disparaître. Et du coup, peut-être, il y a quelque chose d'à la fois très matériel, pérenne et solide dans ce que tu réalises. Et depuis peu, il y a aussi une grande part de ce travail qui est amené à disparaître parce qu'en fait, il est activé vers sa disparition, quoi, un truc comme ça.
Oui, oui, et que du coup, bah, la... enfin, moi, je suis pas bouleversée, mais du coup... actuellement, du coup, je suis artiste plasticienne, c'est mon travail, et du coup, je produis des œuvres qui vont du coup appartenir à des personnes et tout ça. Et là, pour moi, tout ça, enfin, ça commence à m'intéresser beaucoup plus sérieusement parce que du coup, c'est là où tout s'échappe, dans le sens où, ben, en fait, du coup, la question de la créativité et de la et l'acte du coup de création, d'assembler des formes avec sensibilité et des couleurs, ben ça devient un don pour un moment particulier qui est vraiment destiné à ça et juste à ça en fait, et qui du coup participe à cette célébration. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans cette découverte de création culinaire du coup, parce que du coup on va l'ingérer et que ça va tout disparaître et que ça n'appartenait qu'à ce moment-là pour ces personnes-là, et moi je trouve ça super.
Tu proposes désormais plusieurs rendez-vous un peu distincts et aussi évidemment tous en lien les uns avec les autres, dont les banquettes pleine lune qui sont désormais des moments consacrés au partage du repas.
Un peu au regard de ce qu'avait été la première période des pleines lunes, donc de septembre à janvier, moi j'avais envie de pouvoir me concentrer plus sur chaque chose. Et donc les banquets, déjà ça représentait beaucoup de travail de préparation et moi j'avais envie d'être plus disponible pour ça avec Doriane, avec qui on prépare ces banquets. Et du coup aussi n'en faire pas un moment de réflexion intellectuelle et tout ça, mais vraiment un moment vécu, un repas quoi, et qui soit du coup une célébration chaque mois. Donc nous on a vraiment identifié que c'était la question de l'offrande et de la célébration qui nous intéressait là-dedans. Là c'est le début, la première de juin, ça ressemblait plus à un petit vernissage, donc peut-être juste une offrande pour commencer ce nouveau cycle. Et on a eu une super occasion du coup là en début juillet, parce qu'il s'est trouvé que la pleine lune tombait pour les 40 jours de décès d'une personne. Et du coup, on a vraiment destiné du coup ce banquet à cette fête, à ce deuil. Et du coup, il y avait vraiment un travail autour du feu, de l'offrande à cette personne, des dernières offrandes partagées pour les vivants aussi envers cette personne défunte. Donc ça a commencé à vraiment prendre forme pour nous dans l'expérience de préparer une cérémonie avec des gens très incarné quoi. Et c'est ça qu'on veut continuer. Et du coup, les prochaines veillées, on aimerait que ce soit un travail aussi de préparation de fond par rapport au carnaval, de demander aux gens de venir avec qu'est-ce qu'ils aimeraient brûler, de venir... Enfin voilà, c'est encore très expérimental ça, mais nous, on sent que c'est ça qui nous plaît et que c'est pas de juste préparer un repas joli.
Adieu ta que ti chalavos, que ti Lucia vista duram adeliso que escampado
Dans le premier cycle d'éveillé, du coup, qui était les prémices de tout ça, il y avait une invitation à venir fabriquer son costume toute l'année et du coup de s'apprendre des techniques, mais aussi d'incarner son costume tous les mois avec l'évolution que chacun vit du coup à l'année, dans une perspective de éventuellement brûler son costume ou de l'incarner à un moment précis pour cette célébration. Comme j'ai vraiment une pratique plastique et technique, j'avais envie de consacrer vraiment un moment à la fabrication avec les gens. Du coup, je propose un cycle de petits stages d'une journée qui sont vraiment découvertes, mais qui permettent à ceux qui le souhaitent, en tout cas, de se donner un temps en fait de fabrication de son costume. Il y a 5 techniques particulières que j'ai voulu partager qui sont un peu socle pour moi dans ma pratique, qui est la laine feutrée, le crochet, qui est une technique de tricot, donc d'assemblage de fils pour créer une maille, la couture en volume et le rembourrage, et le tissage et la broderie. Et donc le cycle est pensé pour pouvoir retravailler du coup chaque session, éventuellement soit sur une pièce que la personne, soit sur son costume de l'année d'avant, qu'il souhaite amener, mais aussi du coup sur les stages précédents, quoi. Du coup, on va pouvoir broder sur la laine feutrée qu'on a fait et à la fin aboutir à une pièce de costume ou un masque qui regroupe un peu toutes ces techniques.
Je suis en train de faire un chapeau et j'ai fait le patron après avoir pris les dimensions de ma tête en plastique, enfin ton demi-patron. Après, j'ai recouvert de laine, puis j'ai mis un tulle par-dessus, j'ai tout humecté à l'eau très chaude avec du savon, sans trop frotter pour pas trop garder la laine déjà, tu vois, bien humecté comme ça. Et après, j'ai recouvert de plastique et je l'ai retourné comme une crêpe pour faire le deuxième côté. En fait, il faut que tu penses tout en trois dimensions.
La laine cardée, c'est l'étape dans la filière laine. Il y a la laine sur le mouton, on le tond. Après, on trie la toison pour récupérer que la belle partie, qui est souvent la partie dorsale, parce qu'en dessous, en général, il y a eu des excréments ou il y a beaucoup de matière végétale qui s'est coincée dans les poils, ça fait des dreadlocks ou des trucs comme ça. Du coup, tu tries la toison, tu récupères la belle partie, tu la laves et ensuite tu la cardes. Et carder, du coup, c'est, ça veut dire mettre tous les poils dans le même sens. Donc, c'est un système de brossage. Et il me semble que ça vient du cardon, qui est un peu comme les gros chardons. Et je crois qu'avant, ils cardaient la laine avec cette plante-là séchée, qui servait de brosse. Et du coup, maintenant, il y a des techniques industrielles, mais tu as aussi des rouleaux ou des brosses à main qui te servent à brosser le poil pour qu'il soit tout dans le même sens, pour ensuite soit le garder en nappe pour feutrer. Du coup, juste une laine en nuage, quoi. Ou alors qu'ils partent pour le filage. Mais pour le filage aussi, il y a besoin qu'il soit cardé et que la mèche soit dans le même sens. Et après, du coup, une fois filé, ça part pour soit des pratiques de maille ou de tissage.
Et comment on lave une toison ?
Eh bien, industriellement, je ne sais pas comment ils font. Il faudra aller demander à Terrad, à Feltin. Mais moi, je lave à l'eau froide. Et sans. Parce que ça, le feutrage commence à partir du moment où on fait du frottement. C'est facilité avec l'eau chaude aussi, mais du coup, pour enlever le suin, qui est le gras qui est sur le poil, il faut quand même de l'eau chaude. Moi, quand j'ai lavé, j'ai pas très bien enlevé le suin, mais parce que ça a d'autres caractéristiques qui permettent d'imperméabiliser la laine, de garder le suin. Du coup, on peut la transformer en gardant le suin sans la laver aussi. Je sais qu'il y a des couches lavables pour bébé, des fois, qui peuvent être faites avec le suin, parce que ça applique du coup du gras sur les fesses du bébé. Anciennement, on faisait ça. Je pense qu'il y a des techniques que je connais pas, peut-être j'ai un vague souvenir comme ça de sel, peut-être, à mettre dedans, enfin, quelque chose qui aiderait à enlever, à nettoyer le suin, parce que ça sent fort aussi. Voilà, peut-être de l'eau chaude, mais sans le brasser trop.
Tu laisses tremper, c'est de l'eau courante que tu...
Moi, je brassais dans une bassine, mais bon, c'est vraiment très, très artisanal. Je connais pas très bien ça.
Comment tu jauges de l'épaisseur ?
Eh ben, à la sensation, comme dit Anna. Tout est une histoire de sensations. Moi, je répète ce qu'elle a dit, la maîtresse.
Vous, ça vous fait un truc de travailler une fibre animale qui est loin à côté, du coup ? C'est tout doux, c'est vraiment tout doux.
Ah bah, moi, je trouve ça magique de se dire que t'as tout là, quoi. Que tu peux même connaître le mouton. En plus, contrairement au fait de manger le mouton, là, t'as un autre rapport, quoi. C'est-à-dire que tu peux aller chouchouter le mouton ou même avoir un mouton dans ton jardin et qui te fait des câlins tous les jours, et puis tu le tues pas, tu lui piques de la laine, c'est tout, quoi.
Bah, c'est que tu le tonds de toute façon, du coup, là, c'est juste tu jettes pas son poil, quoi.
Bah, ouais, c'est bien. Ça me fait des petits plis, ça, c'est pas un problème ?
Non. Bon, après, là, c'est clair qu'on n'utilise pas la laine du voisin non plus, quoi.
Bah, mérinos, c'est ça,
dans
faudrait...
Ouais.
Mais par exemple, moi, je pourrais avoir un mérinos qui tombe à pelouse.
Et chaque année, si tu nourris bien, tu peux avoir ça.
Faut que je réfléchisse parce que là, j'hésite à avoir un animal domestique, c'est le moment ou jamais. On peut feutrer les cheveux, on peut feutrer n'importe quel poil. Ça veut dire qu'on pourrait aussi feutrer ses poils pubiens.
J'imagine.
Les poils de jambes.
Pas très fins, mais.
Ce serait un peu comme.
Tous les poils pubiens, c'est bon.
Mais tu pourrais les incruster en mode déco, un peu comme c'est en train de faire là, tu vois.
Donc ces ateliers se passent à la nouvelle lune, donc on est toujours dans une question de cycle et de repères par rapport aux lunaisons. Et moi j'avais quand même envie d'avoir un moment où on se retrouve, qui soit pas un moment où moi je suis formatrice, vraiment un moment juste de partage des habitants, où on va pouvoir aussi vraiment commencer à préparer matériellement le prochain carnaval, ou alors se partager des lectures sur ce sujet-là, mais vraiment se concentrer sur le carnaval qui arrive, et pas toute une réflexion sur les fêtes et les cycles, mais vraiment le carnaval. Et du coup, à chaque nouvelle lune, donc il y a la journée, un stage, puis à partir de 19h, il y a la veillée qui commence... dans mon atelier, donc j'invite qui veut, pas uniquement les participants au stage, à se retrouver dans cet espace pour partager un repas. Ma bibliothèque est toujours à disposition, et puis on fabrique ensemble nos costumes pour la prochaine, quoi.
Chăm xe chăm ta bé dưa bình phàm bé bé in tòa bé phình chó nhẹ nhận thảo xô xìa xinh thình bên phẳng y giang thìn tóng giữa tu kín ma cha.
J'ai vraiment tenu pour cette résidence à avoir un atelier dans le bourg de Faux-la-Montagne, ça me paraissait assez essentiel. Déjà pour avoir un chouette espace de travail pour moi, pour pouvoir accueillir les stages, et puis que ce soit vivant, en fait, que ce soit présent, cette question du carnaval et du...
C'est vivant.
C'est vivant.
Il y a du monde dans l'atelier qui passe, du coup. Du coup, ça participait pour moi, en tout cas, à la nécessité de visibiliser la question de la création, de la fabrication et de favoriser les échanges autour du carnaval toute l'année en plein milieu du bourg, quoi. Et que ce ne soit pas juste « Ah tiens, le carnaval arrive une semaine avant, il faut ouvrir le Constant Social Club et faire des ateliers vite, vite, vite. » Voilà.
Alors, les ateliers d'initiation textile, le 19 août... Couture et volume en rembourrage, le 17 septembre tissage et le 16 octobre broderie. Tous les soirs, évidemment, après ces ateliers, vous pouvez venir à la veillée. Il y a encore une autre proposition que tu fais, qui est un atelier étendard. Alors, qu'est-ce que c'est?
Donc, au-delà du coup des rythmes de nouvelle lune et de pleine lune, je propose aussi différents ateliers, plutôt pour le jeune public, mais pas que. Donc il y a un atelier de couture qui est destiné aux enfants de 6 à 14 ans. Je recevrai 2 enfants à la fois pour 3 heures. Et l'idée, c'est de fabriquer un étendard pour le carnaval et de les fabriquer en découvrant différentes techniques de textile, de broderie, de patchwork, de couture. Et du coup, de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de brandir, qu'est-ce qu'on a envie de représenter, c'est quoi l'imaginaire des enfants par rapport à cette fête.
Vous pouvez contacter Anna à son adresse mail anna.gianferrari, G-I-A-N-F-E-2-R-A-R-I, @1000vaches.net pour convenir d'une date pour fabriquer votre étendard.
Il y a aussi d'autres choses qui sont en réflexion, en organisation plutôt, je dirais, avec le planning familial sur la question de représentation du corps et de matérialiser du coup certaines parties de notre corps pour créer du lien avec elle. Voilà. Et puis il y aura des interventions en médiathèque aussi où je présenterai ma bibliothèque en parlant du carnaval. Les dates sont à venir et seront sur le site du Constance Social Club. Et n'hésitez pas à demander à être abonné à la newsletter pour avoir tout ça. Je vous invite à venir à la veillée ce soir, 20 juillet, du coup, lundi, à 19h30, au rez-de-chaussée de la Casa Malte à Faux-la-Montagne, pour venir partager un moment d'échange sur le carnaval. Vous pouvez venir avec votre matériel, votre envie de costume. Si besoin, moi, je peux vous épauler sur la fabrication. Et puis amener de quoi grignoter. Et... Bienvenue.